Eugène Vidocq, Mémoire, chapitre 33. Une fois parvenu au poste de chef de police de la Sûreté, je n'eus plus à me garantir des pièges dont quelques-uns avaient si souvent cherché à m'attirer. Le temps des épreuves était passé, mais il fallut me tenir en garde contre la basse jalousie de quelques-uns de mes subordonnés qui convoitaient mon emploi et mettaient tout en œuvre afin de parvenir à me supplanter. Coco Lacour fut notamment l'un de ceux qui se donnèrent le plus de mal pour me caresser et me nuire tout ensemble. Au moment où ce patelin se détournait de 50 pas et aurait renversé toutes les chaises d'une église pour venir me saluer, Damielle, Dieu vous bénisse. Lorsque par hasard il m'avait entendu éternuer, j'étais bien sûr qu'il y avait anguille sous roche. Personne moins que moi ne se méprenait sur ces petites intentions d'un homme qui se prosterne quand à peine il a besoin de s'incliner. Mais comme j'avais la conscience que je faisais mon devoir, il m'importait peu que ces démonstrations d'une politesse outrée fussent vraies ou fausses. Il ne se passait guère de jour que mes mouches ne vinssent m'avertir que la cour était l'âme de certains conciliabules où se tenait toute espèce de propos sur mon compte. Il projetait, disait-on, de me faire tomber, et j'étais formé un parti qui conspirait avec lui. J'étais le tyran qu'il fallait abattre. D'abord, les conjurés se contentèrent de clabauder, et comme ils avaient sans cesse ma chute en perspective pour se faire mutuellement plaisir, ils se la prédisaient à l'envi. Et chacun d'eux se partageait d'avance l'héritage d'Alexandre. J'ignore si cet héritage est échu au plus digne, mais ce que je sais très bien, c'est que mon successeur ne se fit pas faute de mener plus ou moins à droite pour réussir à se faire adjuger avant mon abdication. Des clabauderies et des cancans. La cour et ses affiliés passèrent à des drames plus réels. Et à l'approche des assises, pendant lesquelles devaient être jugés les nommés Payoas, Leblanc, Berthelet, Lefebvre, prévenus de vol avec effraction, à l'aide d'une pince ou Monseigneur le Dauphin, ils répandirent le bruit que j'étais à la veille d'une catastrophe et que vraisemblablement je ne m'en tirerais pas les chaussettes nettes. Cette prophétie, lancée chez nous, les marchands de vin des environs de palais de justice, me fut promptement rapportée. Mais je ne m'en inquiétais pas plus que de tant d'autres qui ne s'étaient pas réalisés. Seulement, je crus m'apercevoir que la cour redoublait de souplesse et de petits soins. Il me saluait plus respectueusement et plus affectueusement encore que de coutume. Ses yeux, à la faveur de ce mouvement en spirale qu'il imprima à sa tête lorsqu'il visa à se donner les grâces de l'homme comme tout il faut, évitait de plus en plus la rencontre des miens. À la même époque, je remarquais chez les trois autres de mes agents, Chrétien, Hutinet et Descoire, un redoublement d'amour, d'ardeur pour me servir et de complaisance qui m'étonnait. J'étais instruit que ces messieurs avait de fréquentes conférences avec la cour, et moi-même sans songer le moins du monde à épier leur démarche dans mon intérêt personnel, je les avais surpris chuchotant et s'entretenant de moi. Un soir, entre autres, en passant dans la cour de la Sainte-Chapelle, car ils complotaient jusque dans le sanctuaire, j'avais entendu l'un d'eux se réjouir de ce que je ne parerais pas la botte qu'on allait me porter. Quelle était cette botte? Je ne m'en faisais pas une idée. Lorsque Perrault et ses co-accusés y ont été traduits, les débats judiciaires me révélèrent une machination atroce, tenant à établir que j'étais l'instigateur du crime qui les avait amenés sur les bancs. Peyoua prétendait que, s'étant adressé à moi pour me demander si je connaissais un recruteur qui eût un remplaçant à fournir, je lui avais proposé de voler pour mon compte et que même je lui avais donné 3 francs pour acheter la pince avec laquelle il avait été pris faisant effraction chez le sieur Lavorsi. Et Berthelet et Lefebvre, Fébure, confirmaient le dire de Péroce, et un marchand de vin nommé Leclerc, blanc qui, inspiré comme eux, paraissait avoir été le véritable bailleur de fonds pour l'acquisition de l'instrument, les encourageait à persévérer dans un système de défense qui était admis, devait avoir nécessairement pour effet de le faire absoudre. Les avocats qui plaidèrent dans cette cause ne manquèrent pas de tirer tout parti possible de la prétendue instigation qui m'était imputée. Et comme ils parlaient, d'après leur conviction, s'ils se déterminèrent par le jury à rendre une décision favorable à leurs clients, du moins parvinrent-ils à jeter dans l'esprit des juges et du public de terribles préventions contre moi. Dès lors, je crus qu'il était urgent de me disculper et, certain de mon innocence, je priai M. le préfet de police de vouloir bien ordonner une enquête dans le but de constater la vérité. Peyoua, Berthelet, Lefébure venaient d'être condamnés. J'imaginais que, n'ayant plus désormais aucun intérêt à soutenir le mensonge, ils confesseraient qu'ils m'avaient calomnié. Je présumais en outre que dans le cas où leur conduite aurait été le résultat d'une suggestion, il ne ferait plus difficulté de nommer les conseillers de l'imposture qu'ils avaient audacieusement soutenus devant la justice. Le préfet ordonna l'enquête que je sollicitais, et au moment où il confia le soin de la diriger à M. Fleuret, commissaire de police pour le quartier de la Cité, un premier document sur lequel je n'avais pas compté préluda ma justification. C'était une lettre de Berthelet au marchand de vin Leblanc qui avait été déclaré non coupable. Je la transcris ici parce que elle montra combien à quoi se réduisaient les accusations que l'on a cessé de diriger contre moi tout le temps que j'ai été attaché à la police et depuis que j'ai cessé de lui appartenir. Voici cette pièce dont je reproduis l'orthographe. À monsieur. Monsieur Leblanc, maître marchand de vin demeurant barrière du combat, boulevard de la Choupinette, au signe de la croix, approche Paris. Monsieur, je vous écris cette lettre, c'est pour m'informer de l'état de votre santé. Et en même temps pour vous prévenir que nous sommes pourvus aux grâces de notre jugement, Vous ne doutez pas de ma malheureuse position. C'est pourquoi que je vous préviens que si vous m'abandonnez, yes, je ferai de nouvelles révélations de la pince péoïenne que vous avez fournie et qui de plus a été trouvée chez vous, dont vous n'ignorez pas que nous ayons caché à la justice à cet égard et dont un chef de la police a été cité dans cette affaire qui était innocent avec un A. Et quelqu'un a cherché à le rendre victime. Vous n'ignorez pas les promesses que vous m'avez faites dans votre chambre pour vous soutenir dans le tribunal. Vous n'ignorez pas que j'ai vendu le sac et la chapelle à votre femme. C'est pourquoi, si vous m'abandonnez, et accent aigu, je ne vous regarderai pas pour un homme, d'après toutes vos belles promesses au singulier. Rappelez-vous que la justice ne perd, avec un T, pas ses droits, et que je puis vous faire à plaisant. Vous n'avez rien à craindre. Cette lettre a passé secrètement. Berthelet. Et plus bas, j'approuve avec un P l'écriture ci-dessus. Suivant l'usage, cette lettre, qui devait passer secrètement, fut remise au geôlier qui, en ayant pris connaissance, la fait aussitôt parvenir à la préfecture de police. Leblanc n'ayant pu, par conséquent, ni répondre ni venir au secours de Berthelet, ce dernier perdit patience et, en exécution des menaces qu'il avait faites, il m'écrivit de la conciergerie une autre lettre ainsi conçue. Ce 29 septembre 1823. Monsieur, d'après les débats de la cour d'assises et le résumé du président qui porte à charge, d'après la déclaration du nommé Pesnois, qui par une fausse déclaration faite par lui au tribunal l'écu de 3 francs que vous lui aviez donné pour acheter l'instrument qui a cassé la porte à M. Labouati. Berthelet, en présence des autorités, veut faire reconnaître la vérité et votre innocence, je déclare. Premièrement, savoir où la pince P-E-I-N-C-E a été achetée. Deuxièmement, de la maison d'où elle est sortie, T-Y. Troisièmement, et le nom de celui qui l'a fourni avec vérité, Berthelet. Et plus bas, j'approuve l'écriture de ci-dessus. Et plus bas encore, le sceau de la maison de justice et cette mention de la main du chef des employés de la conciergerie. Lecture ci-dessus et signature est celle de Berthelet. Aigli. Berthelet, interrogé par M. Fleuriet, déclara que la pince avait coûté 45 sous, qu'elle avait été achetée au faubourg du Temple chez un marchand fripier, et que Leblanc, instruit de l'usage qu'on devait en faire, avait avancé l'argent pour la payer. Le marché conclu, poursuivit Berthelet, Leblanc, qui était resté un peu en arrière, me dit: si on te demande ce que tu veux faire de la pince, tu diras que tu es tailleur de ciseaux et que tu en as besoin pour serrer la route de ton métier. Et si on te demande tes papiers, tu me feras venir. Je dirai que tu es mon apprenti. J'allais le rejoindre ayant la pince à la main. Il me dit de la lui donner pour la mettre sous sa redingote dans la crainte que je me fusse rencontré par des agents. Monsieur Leblanc me conduisit tout de suite chez lui. En arrivant, son premier soin fut de descendre à sa cave pour y déposer la pince. Le soir même, après avoir bu jusqu'à 10 heures, Lefèvre, Péos et moi, nous allâmes retourner du temple dans une petite rue dont je ne sais pas le nom. Péos, tandis que Lefèvre et moi, nous faisions le guet, pratiqua 33 tours au moyen d'une vrille dans le volet d'une marchande lingère. Le couteau dont se servait Péos pour couper l'entre-deux des trous, ayant cassé et notre coup ayant manqué, nous nous retirâmes. Nous allâmes ensuite à la salle contre la pointe Saint-Eustache, où Péros, servant de la pince dont j'ai parlé, essaya de faire sauter la porte d'un épicier, d'un mercier. Et quelqu'un de l'intérieur, ayant demandé ce qu'on voulait, nous prîmes la fuite. Il était alors 2 heures du matin. Nous allâmes tous les trois à l'hôtel d'Angleterre, où Péos remit à la bourgeoise de la maison qu'il connaissait un parapluie qu'il avait avec lui. Avant d'y entrer, Péos avait remis à une marchande de thé de café qui était en plein air, près de Palais-Royal, la pince qui était enveloppée dans un sac. Nous sortîmes de l'hôtel d'Angleterre à près de 5 heures du matin et Péros prit à la marchande de café la pince qu'il lui avait donnée à garder. Je dois dire que cette femme ignorait ce que c'était. Péros s'en alla chez Leblanc, son bourgeois, et emporta la pince avec lui. Lefèvre et moi ne nous quittâmes plus. Et nous retournâmes chez Leblanc à 5 heures du soir, où nous restâmes jusqu'à 10. Leblanc me remit un briquet phonophonique pour nous servir au besoin, ainsi qu'un bout de chandelle. Je m'étais même amusé avec la pointe d'un couteau à tracer sur ce briquet qui était en plomb la lettre L qui commence le nom de Leblanc. Péros, Lefèvre et moi, nous sortîmes ensemble. Péros, ayant pris sur lui la pince, la passa à la barrière et nous la remit après. Il s'arrêta en chemin pour aller dans une maison garnie avec Victor Bigand et Lefèvre et moi, nous allâmes commettre chez l'abbati le vol sur lequel nous avons été arrêtés. La pince est en partie des effets qui avaient été volés, furent portés par Lefèvre chez Leblanc. Et Leblanc, qui a été mis en jugement avec nous, avait engagé à ne pas le charger et à ne pas démentir Péros, qui devait dire que c'était M. Vidocq qui lui avait donné 3 francs pour acheter la pince. Et il avait promis de me donner la somme d'argent si je voulais soutenir la même chose. Alors je lui avais consenti, croyant qu'en disant la vérité, mon affaire ne devint plus mauvaise. Déclaration du 3 octobre 1823. Lefèvre, qui comparut ensuite, sans avoir pu communiquer avec Berthelet, confirma la déclaration de ce dernier en ce qui concernait le blanc. Tu ne l'es pas, ajouta-t-il, dit que c'était lui qui avait fourni à Berthelet l'argent pour acheter la pince, c'est que Pérols m'avait engagé à dire que c'était lui, Pérols, qui l'avait acheté. Pérols s'était compromis dans ce vol, n'avait pas voulu charger le blanc qui lui faisait du bien et qui pouvait lui faire davantage par la suite. Un sieur Aigli, chef des employés de la conciergerie, il est nommé le comte et Vermont, détenu dans cette maison, ayant été entendu par M. Fleurus, rapportèrent plusieurs conversations dans lesquelles Berthelet, Lefebvre et Pérols étaient convenus devant eux qu'ils m'avaient inculpé à tort. Et dans leur témoignage, tous les condamnés s'accordaient à dire ce que j'avais constamment détourné de faire le mal. Vermont raconta, en outre, qu'un jour, je les ayant blâmés de ce qu'ils m'avaient compromis sans motif, ils lui répondirent « Bah, nous nous foutons bien de cela. Nous aurions compromis le Père éternel pour nous sauver. » Mais ça a mal réussi. Pérols, qui était le plus jeune des condamnés, mit néanmoins la franchise dans ses réponses. Son amitié pour Leblanc le porta d'abord à cacher une partie de la vérité, et cependant il ne put s'empêcher de reconnaître que j'étais étranger à l'achat de la pince. Pendant, dit-il, toute l'instruction qui a précédé ma mise en jugement et devant la cour d'assises, j'ai affirmé et soutenu que c'était M. Vidocq qui m'avait donné 3 francs pour acheter la pince à l'aide de laquelle a été commis le vol qui m'a fait arrêter, ainsi que Berthelet, les Blancs, le Fébure et autres. J'ai persisté à dire toujours la même chose, espérant que cela pourrait ou diminuer ou alléger ma peine. J'avais pensé à ce moyen parce que des prisonniers m'avaient dit qu'ils pourraient me servir. Je dois, dans la vérité, le déclarer aujourd'hui que M. Vidocq ne m'a point donné l'argent en question pour acheter la pince, que c'est moi qui l'ai acheté de mon argent. Cette pince me coûta 45 sous. Je l'ai acheté chez un ferrailleur en boutique qui demeure dans la première rue à droite en entrant dans la rue des Arcisses, aux côtés du pont Notre-Dame. Je ne connais pas le nom de ce ferrailleur, mais je pourrais facilement la faire reconnaître la boutique qui, au surplus, est la deuxième à droite en descendant dans cette rue. C'est la nuit ou le 9 mars dernier que j'en fis l'achat. Le ferrailleur et sa femme étaient dans la boutique. C'était la première fois que je m'achetais quelque chose chez eux. 3 jours après, Pérols, ayant été transféré à Bicêtre, écrivit au chef de la 2e division de la préfecture de police une lettre dans laquelle il confessait qu'il en avait constamment imposé à la police-justice et témoignait le désir de faire des révélations sincères. Cette fois, la vérité tout entière allait être connue. Hutinet, Chrétien, Desocard, Cocolacour, qui étaient venus à l'audience déposer dans le sens de l'imposture, furent tout à coup dévoilés. Il devint évident que Chrétien avait fait jouer les ressorts de l'intrigue qui devait amener mon expulsion de la police. Une déclaration que reçut le maire de Gentilly mit au grand jour pour toute l'infamie de cette machination dont la cour Chrestien, de Guchard et Usinet s'étaient promis le succès le plus complet. C'était eux qui m'avaient envoyé Perros lorsqu'il était venu me trouver sous prétexte de me demander si je ne pouvais pas lui indiquer un receleur qui eut besoin d'un remplaçant. C'était encore eux qui avaient engagé Berthelet à se présenter dans mon bureau pour me donner des avis sur certains vols qui devaient se commettre. Ils avaient ainsi dressé, pour le soutien de l'accusation, sous le poids de laquelle ils projetaient de m'accabler, un échafaudage de vraisemblance résultant de mes rapports avec les voleurs antérieurement à leur arrestation. Selon toutes apparences, il n'était pas impossible qu'ils eussent quelque temps fermé les yeux sur les expéditions de Perrols et consorts, à la condition que s'il leur arrivait d'être pris en flagrant délit, ils adopteraient un système de défense conforme à leurs intérêts. Il n'existait pas de vestige d'une transaction de ce genre, mais elle devait avoir eu lieu, et les démarches de mes agents, soit pendant l'instruction de la procédure, soit depuis la condamnation des coupables, ne permettent pas d'élever le moindre doute à cet égard. Perrols s'est arrêté aussitôt, Utrier et Chrétien se rendent à la force et ont avec lui un entretien dans lequel ils le persuadent que c'est seulement en m'accusant qu'il pourrait faire prendre à son affaire une tournure favorable et que s'il veut ne pas être condamné, il n'a qu'à les faire appeler un à l'autre comme témoin de ce qu'il convient qu'il avance et qu'ils soutiendront son assertion et déposeront dans le même sens que lui et que même ils diront qu'ils m'ont vu lui donner la somme de 3 francs. Les deux agents ne se bornent pas à ces conseils. Pour être certain à tout événement que Perrols ne se rétractera pas, ils lui disent qu'ils ont à leur disposition un protecteur puissant dont l'influence le persévérera de toute espèce de condamnation et que si par hasard une condamnation était inévitable, il aurait encore les bras assez longs pour faire casser le jugement. Les débats ouverts, Utinet, Chrestien, Lacour et Desflocart s'empressent de venir attester les faits qui me sont imputés par Perrols. Cependant, ce jeune homme à qui ils ont promis l'impunité est frappé par le verdict. Alors, appréhendant qu'enfin éclairé sur sa position, il ne le fasse repentir de l'avoir trompé en dévoilant leur perfidie, il se hâte de ranimer son espoir. Et non seulement ils exigent de lui qu'il pourvoie en cassation, mais encore ils offrent de lui donner un défenseur à leurs frais et s'engagent à payer tous les dépens que cette approximation occasionnera. La mère de Perrols est également obsédée par ces intrigants. Ils lui font les mêmes offres de service et les mêmes promesses. La cour, Desautard et Chrétien l'entraînent chez le sieur Blas, marchand de vin, place du palais de justice. Et là, en présence d'une bouteille de vin et de la femme Leblanc, ils déploient toute leur éloquence pour démontrer à la mère Paille-Ron que si elle les seconde et que son fils soit donc de leur avis, il leur sera facile de le sauver. Soyez tranquille, lui dit Chrétien. Nous ferons tout ce qu'il faudra faire. Telles furent les lumières que produisit l'enquête. Il devint évident pour les magistrats que l'incident de la pince fournie par Vidocq était une invention de mes agents. Et depuis, on a brodé sur fond une foule de récits plus ou moins bizarres que les Plutarques de piliers littéraires ne manqueront pas de donner ici pour authentique, si jamais il en prend fantaisie à l'imprimeur Tiga ou à son successeur d'ajouter à la collection des livres forains l'histoire admirable et pourtant véridique des faits, gestes et aventures innombrables, mémorables, extraordinaires ou surprenantes du célèbre Vidocq, avec le portrait du grand Mouchard, représenté en personne naturelle et vivante, tel qu'il était avant sa mort, arrivé sans accident le jour de son décès, en la maison de Saint-Mandé, à l'heure de minuit 22, juin de l'an de grâce 1875.